Ce podcast a été réalisé à partir de l'enregistrement du webinaire organisé par GPS Cancer le 23 juin 2023 sur le thème « Cancer et travail » avec l'intervention d'Éléonore Piot-de-Villard, patiente experte et ingénieure en éducation thérapeutique.
Merci Bruno, c'était absolument passionnant de vous écouter. Alors moi je suis avant tout patiente parce que j'ai été confrontée à deux cancers, dont un cancer du col de l'utérus, qui était, comme l'a dit Bruno, très pourvoyeur de fatigue. 64% ressentent encore de la fatigue à 5 ans. Donc cette fatigue, on se sent souvent très coupable, Bruno l'a dit, de ressentir cette fatigue. Et puis, même s'il y a des études qui ont été faites dans la littérature scientifique, les médecins passent un peu vite dessus en disant « oui, mais bon, il faut continuer le traitement ». Donc, on se sent coupable et on ne se sent pas toujours bien compris par l'entourage. Donc, moi, j'ai eu des répercussions, comme vous tous ici, sur ma vie personnelle. C'est-à-dire qu'on a envie de faire les choses et on n'arrive pas à les faire parce qu'on se sent exténué, qu'on les reporte. Sur ma vie professionnelle, alors même avec les dispositifs qui existent comme le mi-temps thérapeutique, c'est quelquefois difficile de continuer à aller travailler, même quand on est plein de bonne volonté parce que cette fatigue elle est importante. Sur la vie de famille, on n'est pas que des patients, on n'est pas que des malades, hein, on a souvent une famille à gérer avec toutes les tâches induites, ménagères, logistiques, etc., s'occuper des enfants quand on en a. Donc ça engendre de la fatigue, donc d'où l'importance de bien expliquer aussi ce qu'est la fatigue à son entourage. Et là, une petite astuce que j'avais mise en place, c'était d'utiliser une espèce de… J'avais fabriqué un espèce de petit trou, quoi, un rond, avec des… là, je suis très fatiguée, en orange… sur le côté rouge, ne me parlez pas, je suis exténuée. Et puis de l'autre côté, par exemple, j'avais mis ça sur le frigo et de l'autre côté, il y avait marqué vert, ça va, je suis pas fatiguée, je suis bien. Et bleu, c'est pas trop mal. Ça marchait assez bien. Je montrais le frigo à mon fils qui était petit. Je disais là, je suis en rouge, maman est très, très fatiguée. Donc bien expliquer à l'entourage qui comprend pas toujours, surtout quand on a fini ses traitements. Et bah, de quoi en rémission, tout va bien. Donc voilà, donc c'est pas toujours évident. La répercussion sur la vie sexuelle, on n'en parle pas, ça, quand on est fatigué et que ça se rajoute à la douleur, eh bien, on n'a pas envie d'avoir de relations intimes parce que moi, j'étais tellement, tellement exténuée que le soir, j'avais surtout envie qu'on me fiche la paix et d'essayer de dormir. Donc on a beau vous faire plein de propositions indécentes. La vie sexuelle passe aussi au deuxième plan. Il y a vraiment des répercussions à ce niveau-là. Et puis, pardon ? Oui, Françoise ?
Non, je crois qu'il n'y a personne qui parle. Non.
Ah, pardon. Et puis, sur la vie sociale, c'est indéniable. On n'a pas toujours envie de sortir. Quand on est fatigué, rien que d'entendre les gens parler, de devoir échanger, etc., c'est une fatigue qui se rajoute. Donc ça, c'est important. Et cette fatigue, en fait, elle est, on l'a dit, elle est causée par les traitements, par des causes inflammatoires. On a parlé des cytokines. Donc, elle peut être réactionnelle au traitement qu'on a. Elle peut être aussi réactionnelle. Il y a quelque chose qu'on oublie un peu, c'est quand on est en traitement, on a plein de rendez-vous à droite, à gauche. On doit se déplacer très souvent dans le centre de soins qui n'est pas forcément à côté de chez soi. On n'a pas forcément un taxi médicalisé qui vient vous chercher, surtout pour les publics précaires qui n'ont pas forcément tous les dispositifs de prise en charge, ils n'ont pas connaissance de tout ça. Donc, rien que de prendre son taxi, de son métro, ou alors attendre 3 heures son VSL qui ne vient pas vous chercher pour aller à sa radiothérapie, qu'on fait en même temps que la chimio, et bien ça, c'est déjà une source de fatigue. Et puis, il y a aussi cet emploi du temps de ministre, hein, du patient, des rendez-vous partout qu'on doit conjuguer avec la vie familiale, sociale, professionnelle. Et aussi, cette fatigue qui va être émotionnelle. parce que on est anxieux, parce que on a peur, parce qu'on n'a pas des bons résultats, cette fatigue cognitive, parce qu'on sait très bien que les traitements, la chimio, l'immunothérapie peuvent avoir des effets aussi au niveau de la concentration. Et donc, ces différentes fatigues, elles existent vraiment. Donc, le premier message que je ferai passer, c'est expliquer à l'entourage et déculpabiliser. On va passer à la suivante. Alors, il se trouve que, à côté d'être patiente, j'ai aussi passé un DU sport et cancer avec la Camille et j'ai donné pas mal de cours aussi en tant qu'éducateur médico-sportif dans les services d'oncologie et je continue maintenant dans les services douleurs. Et donc, quelle stratégie, moi, j'ai expérimenté en tant que patiente et que j'ai pu mettre en place pour d'autres patients et notamment dans les ateliers d'éducation thérapeutique à l'hôpital, c'est l'importance de l'activité physique, hein. Bruno nous en a dit quelques mots qui étaient très vrais. Pourquoi c'est important l'activité physique? C'est parce que quand on va solliciter nos muscles squelettiques lors de différentes activités, hein, l'activité physique, c'est pas uniquement comme vous le voyez sur les vignettes, c'est pas du sport. C'est tout ce qui rassemble les activités de la vie quotidienne à partir du moment où on est plus sédentaire et on utilise notre muscle squelettique et qu'il y a une dépense d'énergie. Je marche pour aller acheter ma baguette, je vais voir mon pharmacien à pied, je prends mon vélo, je fais du jardinage, je fais du ménage chez moi, je garde mes petits-enfants et je les emmène se balader. C'est tout ça, c'est les transports, l'escalier que je vais monter dans le métro et tout ça. Et pourquoi c'est intéressant de faire de l'activité physique? Déjà parce que ça va nous changer les idées, ça va nous faire penser à autre chose. Ça nous permet de sortir de la spirale de la maladie. C'est ce qu'on entend aussi dans les ateliers d'éducation thérapeutique auprès des autres patients. Et puis, ces muscles squelettiques, quand ils vont se mettre en branle, voilà, pour nous permettre de faire l'activité physique, de lever le bras, par exemple, pour une personne qui fera du yoga, pour pédaler sur notre vélo, pour nager, et ben, ces muscles, ils vont sécréter des petits produits qui s'appellent les myokines. N'oublions pas que les muscles squelettiques, c'est les plus grandes usines à sécrétion du corps humain. Et donc, ces petites myokines, en fait, ça va nous permettre de lutter contre l'effet inflammatoire des cytokines et donc de réduire l'effet fatigue qu'on a, qui est dû au cancer, hein, mais qui est dû aussi à tout ce qu'il y a autour du cancer. La fonte musculaire aussi, ça c'est un cercle vicieux comme le disait Bruno, la fonte musculaire, hein, qu'on appelle un peu la sarcopénie, plus on perd du muscle et plus on perd de la masse grasse, plus on prend de la masse grasse, plus les efforts de la vie quotidienne, monter un escalier, aller à la poste à pied, être dans les couloirs du métro pour rejoindre mon prochain rendez-vous médical, sans même parler d'activités plus intenses, ça va être difficile. Et ça va être fatigant. Donc, l'activité physique, elle nous permet aussi, quand on bouge, de lutter contre ce déconditionnement à l'effort qui va se rajouter à cette fatigue des traitements. Mais il n'y a pas que l'activité physique qui peut aussi jouer un rôle important quand on est fatigué. Les patients nous rapportent aussi, et ont expérimenté, notamment dans les ateliers de TP, la luminothérapie, c'est-à-dire... Ça peut être une lampe de luminothérapie, on a besoin de lumière, davantage encore pour les femmes qui ont été ménopausées par les traitements, mais on peut aussi juste aller à l'extérieur, mettre un petit fauteuil dehors, même quand le temps est gris, prendre de la lumière. Faire une activité qui nous plaît, parce que là, ça va nous permettre de mettre en branle nos hormones du plaisir. Et donc, une activité manuelle, artistique, j'aime jardiner, j'aime faire de la danse, j'aime chanter, j'aime bricoler. Tout ça concourt à faire que nos hormones du plaisir, de la récompense, on va les susciter. Et tout ça va faire que l'impression de fatigue que j'ai, eh ben, elle passe au second plan. Il peut y avoir aussi une approche avec... Il y en a, c'est conseillé avec les services soins de support, l'entretien avec un psychologue pour en parler. Bruno a parlé des approches psychocorporelles comme la sophrologie, la méditation, justement quand on est très fatigué, apprendre à réguler ce niveau d'anxiété, hein, ce niveau de stress qui peut faire qu'on a du mal à dormir, on est tellement fatigué, tellement stressé parce qu'on est crevé. La sophrologie, l'auto-sophronisation, l'auto-méditation, il y a des petites applications sur les smartphones que vous pouvez télécharger, peut aider. Bien évidemment, ça dépend du niveau de fatigue. Reprendre une vie sociale avec des amis qu'on aime, qui sont chers, ça peut aussi faire du bien. Je mettais la câlinothérapie. Ben, c'est vrai que d'être au contact d'un animal, alors je ne sais pas s'il y a eu d'études cliniques dessus, mais par exemple, voilà, on caresse son chat, on a son chien sous les pieds. C'est des choses que nous rapportent les patients et qui nous disent leur faire du bien et les détendre. Tout ce qui peut détendre permet de diminuer cet impact de la fatigue. Alors, l'aromathérapie, ça peut être des huiles essentielles qui peuvent faire du bien. L'homéopathie, on y croit, on n'y croit pas. Une alimentation équilibrée, ça c'est essentiel. Une alimentation qui serait dénutrie, qui serait pas suffisamment protéinée, pas suffisamment de fibres, de vitamines, évidemment, va pas lutter contre la fatigue. Donc ça, c'est important. Le sommeil, mais oui, mais quand on n'arrive pas à dormir parce qu'on est tellement fatigué et qu'on est douloureux, essayez un petit peu de fragmenter dans la journée, tant que possible. Dans les transports, ça peut être 10-15 minutes où on ferme les yeux, on essaye de se détendre. Ça, c'est important. Et puis, bien évidemment, les médecins, il faut en parler à son médecin. Les médecins sont souvent débordés. Et ce n'est pas qu'ils n'entendent pas cette plainte légitime de la fatigue, c'est qu'ils n'ont souvent pas d'alternative à proposer, mais ils savent très bien qu'elle existe cette fatigue. Donc, ça, c'est important. On va passer à la slide suivante. Alors, l'activité physique, c'est vraiment une donnée qui a été étudiée notamment dans de nombreuses études cliniques et des méta. Je suis sur la mauvaise diapo sur mon ordinateur. Voilà. C'est quelque chose qui a été fréquemment étudié. Il y a eu des méta-analyses dans le monde entier, sur, beaucoup d'anglophones notamment, sur l'activité physique en oncologie. C'est la seule thérapeutique non médicamenteuse qui est validée pour diminuer le ressenti de la fatigue. Ça veut dire que, comme le disait Bruno, il n'y aura pas de vitamine à vous donner, il n'y aura pas d'injection à vous donner. C'est le fait de remettre le corps en mouvement qui va permettre de réduire ce ressenti de la fatigue. Ce n'est pas magique, ça ne veut pas dire que la fatigue va disparaître, mais ça permet de retrouver un goût à l'activité. Alors, à tous les moments du parcours de soins, ça c'est important, on parle de préhabilitation maintenant, c'est-à-dire que des patients qui n'ont même pas commencé la chirurgie ou un parcours de chimio, hein, qui sont au début du parcours de soins, eh bien c'est important de garder peut-être la condition physique, les composants de la condition physique qu'ils avaient avant, donc masse musculaire, élasticité musculaire, équilibre, capacité cardio-respiratoire, même avant de commencer les traitements. Et si on ne faisait pas d'activité physique avant, eh ben on peut commencer à se mettre à marcher, à faire un peu de vélo, etc., avant ses premiers rendez-vous. Alors, ce qui est préconisé, en fait, ça dépend un petit peu de la fatigue que vous avez. La fatigue que vous avez, on dit plutôt, on va pratiquer avec une intensité modérée. Alors, on va voir ce que c'est qu'une intensité modérée. Cette pratique avec une intensité modérée va avoir un effet attendu sur la fatigue. Cette intensité modérée, combien de fois par semaine je la fais? Bruno disait, hein, il nous a parlé de 150, on parle généralement de 150 minutes d'activité physique par semaine. Ça peut paraître beaucoup, mais ça peut faire 5 fois 30 minutes. Donc, par exemple, je me dis que du lundi au vendredi, je fais peut-être 15 minutes le matin, 15 minutes l'après-midi, un petit peu de marche. J'ai un petit vélo d'appartement chez moi où je fais des exercices de flexibilité. J'essaye de m'étirer, vous voyez? Ou ça peut être, je fais 1 heure le week-end, une balade en forêt avec mes petits-enfants. Et peut-être que dans la semaine, je fais trois séances de 30 minutes. On va passer à la diapo suivante. Alors, avant de passer au repère d'intensité, ce qui est important, c'est que vraiment, pour éliminer cet effet un peu nocif des cytokines et que nos petites myokines musculaires, nos petites sécrétions musculaires des muscles squelettiques qu'on va utiliser quand on fait du vélo, quand je lève mon bras, quand je fais du pilate, quand je vais peut-être à la piscine, etc., pour que ces myokines puissent faire leur boulot de compensation de ces phénomènes inflammatoires qui créent de la fatigue, il va falloir avoir un effet dose. Donc, l'effet dose, eh bien, c'est à peu près 30 minutes par jour. Retenez bien ça. On peut faire beaucoup plus en fonction de l'état dans lequel on est et puis peut-être aussi de son passé de sportif. Si vous avez l'habitude d'avoir toujours fait du sport, libre à vous peut-être d'en faire un petit peu plus. Alors, un repère d'intensité modérée, c'est quoi ? Essoufflement modéré, ça veut dire qu'avec Bruno, on va peut-être faire de la marche nordique et on peut avoir une conversation. C'est-à-dire qu'on peut parler ensemble, mais on est légèrement essoufflé. Voilà. Je transpire hein, parce qu'il y a des échanges qui se font au niveau du corps humain. Comme j'ai mon usine qui va brûler les calories qui se met en place, ben, je vais transpirer. Donc, j'ai une petite transpiration, une petite sudation. Au niveau du rythme cardiaque, si on veut être en endurance fondamentale, il faut que j'ai mon… Si j'ai un petit cardio, une petite montre, un petit cardio avec un cardio-fréquence-mètre, je dois être à 55, entre 55 et 70% de ma fréquence cardiaque maximale. Ça se détermine avec l'aide de son médecin, tout simplement. Alors, ça veut dire quoi concrètement ? Ben, ça voudrait dire que quand je marche, en marche nordique ou en marche rapide avec les bras, je peux marcher à peu près entre 5, 6, 6,5 km/h. Voilà. C'est un peu adapté. Quelqu'un mettait très justement, c'est adapté à la condition physique, à votre composition corporelle. Quelqu'un, par exemple, qui est en obésité, aura plus de difficultés à marcher, peut-être à marcher à 6 km/h. Donc, peut-être que 5 km/h, ça sera amplement suffisant. Avec ma composition corporelle, c'est plus facile pour moi de marcher à 6 km/h parce que mon rapport poids-taille est plus facile. C'est par exemple des montées d'escalier à vitesse lente. Ça peut être une nage de loisir. Je vais tranquillement nager un peu la brasse ou faire des battements de jambes avec ma planche à la piscine. Du vélo, on va dire, entre… Ça, c'est les études. Hein. Il y a eu des mesures très précises. Alors, j'ai intensité modérée, voilà, vélo à 15 km/h. Bon, il ne faudrait pas qu'il y ait de vent de face parce que je trouve ça déjà assez, assez rapide. Vélo électrique, très bien, parce que vélo électrique, on a une assistance électrique, mais il faut quand même pédaler, donc vélo électrique, très bien. Et puis, tout ça est à conjuguer, Bruno nous le disait, à mixer avec des activités de renforcement musculaire. Le renforcement musculaire, comment je le fais ? Ben, je peux monter des escaliers, hein, voilà, dans le métro ou ailleurs. Je ne prends pas,
l'escalator.
Le machin roulant.
L'escalator. Voilà.
L'escalator. Je peux faire du renforcement musculaire, par exemple, avec des petites sangles à la maison. Je peux faire du pilates, je peux faire du yoga. Et ces activités sont intéressantes aussi parce qu'elles vont travailler l'allongement. Elles vont travailler l'assouplissement, l'autograndissement quand je fais du yoga et du pilates ou du tai chi donc c'est, ou du qigong, donc c'est intéressant aussi. Si vous pouvez respecter deux jours entre deux séances, c'est, je disais 30 minutes tous les jours dans le sens où on n'a pas forcément le temps de faire une heure tous les deux jours, mais la meilleure des formules possibles, c'est je fais par exemple une heure le lundi, le mardi je laisse mon organisme récupérer et le mercredi je fais une heure d'activité. Voilà. Donc, tout ça, c'est un petit peu les règles de bonne pratique pour éviter un déconditionnement à l'effort, une fonte musculaire trop importante. Et il ne faut pas oublier aussi que quand on est fatigué, c'est un petit peu le cercle vicieux. Je suis fatiguée, je bouge moins, j'ai moins envie de bouger. j'ai une fonte musculaire et ça va entraîner l'apparition de douleurs. Je vais perdre du muscle, par exemple, au niveau abdominal, et je vais perdre du muscle aussi au niveau dorsal, et là, ça va entraîner des douleurs lombaires. Et après, comme j'ai mal, je vais bouger de moins en moins, et puis on a un petit peu d'anxiété qui s'installe, et on peut avoir légitimement être un peu déprimé. Donc, c'est pour ça que c'est important de continuer à être actif à ce rythme-là, si c'est possible, ou à un rythme inférieur, le tout étant d'être actif. On va passer à la diapo suivante. Alors, il y a un petit outil qui est bien aussi, c'est planifier mes activités pour apprendre à mieux gérer mon énergie au jour le jour. Et ça, c'est un truc super à mettre sur votre frigo. Vous listez un peu les activités que vous faites dans la journée. Prendre les trajets pour aller à l'hôpital, prendre les trajets pour aller à mon boulot, faire les courses, aller acheter mes médicaments, m'occuper de mes enfants, jardinage, bricolage, tout ça en plus, bien évidemment, de mes activités invisibles de malade, puisque la vie d'un malade, c'est d'un patient, c'est un emploi du temps en temps complet. Vous listez un petit peu toutes vos activités et on sait tous que ces activités vont demander beaucoup d'énergie. Par exemple, moi, quand je suis fatiguée, je déteste aller faire les courses. C'est pour moi le parcours du combattant. D'avoir à traîner dans le supermarché et porter des packs d'eau et décharger ma voiture, c'est horrible. Eh bien, si je suis plus en forme le matin, si je sais que le matin, c'est mieux pour moi, eh bien, je vais mettre sur mon frigo cette petite horloge et puis les activités où je suis plus en... les activités qui sont les plus difficiles, par exemple, je vais les mettre en rouge, les courses, le ménage dans la maison, m'occuper de mes petits-enfants. Eh bien, ces activités-là, si elles sont plus énergivores et que le matin, je suis plus en forme, eh bien, je vais les mettre, par exemple, sur ma petite horloge. Je vais les découper, je vais les positionner sur ma petite horloge du matin. Le soir, je suis plus fatiguée. Ben, peut-être que le soir, eh bien, c'est le moment où je prends mon bouquin, c'est le moment où je me fais une petite auto-sophronisation. Donc, les activités, on a tendance à en faire beaucoup. Peut-être apprendre à les repérer dans son quotidien, voir celles qui sont le plus consommatrices d'énergie et que j'ai plus de mal à faire, pour les positionner à des moments où je suis moins fatiguée. Françoise, à vous le studio, j'ai terminé.
Merci beaucoup, Éléonore, pour tous ces conseils. Et alors, moi, j'avais une question, mais c'était les massages, parce que là, tu as parlé de tout ce qu'on peut faire, mais à qui on peut faire appel pour se faire aider? Parce qu'on a parlé un petit peu d'acupuncture, mais et les massages, est-ce que ce genre de choses, c'est conseillé? Est-ce que ça, est-ce
alors,
qu'on a des preuves comme
ça?
C'est une question à toi, oui, à Bruno.
Je vais répondre d'une façon non médicale. J'animais hier un atelier pour des patients douloureux et fatigués, voilà, qui avaient voilà, et une patiente qui était très très fatiguée. Et alors, elle n'avait pas de pathologie qui empêchait un massage. Voilà, elle avait le droit d'aller faire un massage. Son kiné n'était malheureusement pas disponible et elle s'est offerte dans un centre de massage qui n'est un centre non médical. Elle s'est offerte un massage du corps ou des pieds, je ne sais plus, et ça l'a extrêmement détendue. Donc oui, tout à fait. S'il n'y a pas de contre-indication médicale à ce que quelqu'un touche votre